Naître et savoir sur Marmite FM.
Ce que vous voudriez savoir avant d'accoucher et de devenir parent.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Naître et savoir que vous retrouvez tous les mois sur Marmite FM. Son but est de vous informer sur la grossesse, l'accouchement et plus généralement sur la parentalité. Chaque mois, vous entendrez des paroles de femmes et d'hommes, ainsi que de professionnels de la naissance et de l'enfance, pour que vous soyez mieux informés, afin de faire des choix libres et éclairés. Ce mois-ci, nous fêtons les 1 an de l'émission. En effet, depuis avril 2017, nous vous proposons une émission où vous avez entendu des récits d'accouchement et des témoignages de parents et de professionnels sur les violences obstétricales et gynécologiques. Face à tous ces témoignages douloureux, nous avons aussi voulu vous proposer une série de sujets sur les conditions nécessaires pour qu'un accouchement, une naissance, se passe le mieux possible pour la mère et son bébé. Au programme de cette 8e émission, et pour célébrer les 1 an de Naître et Savoir, nous vous proposons la suite du sujet sur les doulas, ces professionnels de la périnatalité et de la naissance. Pour rappel, une doula est une femme qui accompagne la mère et le couple avant, pendant et après la naissance, en plus du suivi médical. Elle apporte un soutien émotionnel, matériel et des informations afin que les parents puissent faire leur propre choix sur la naissance de leur enfant et leur parentalité. Dans l'émission du mois de mars, nous avons donné la parole à Ludivine et Jérémy, un couple de Saint-Quentinois, ainsi qu'à Virginie, leur doula. Ils ont fait le choix de se faire accompagner par une doula, en plus du suivi médical avec leur sage-femme, pour accueillir leur premier enfant plus sereinement. Virginie, de son côté, a répondu à nos questions sur son métier et a donné des exemples sur les différents types d'accompagnement que peut proposer la doula. Aujourd'hui, nous vous proposons de continuer à découvrir ce métier en donnant la parole à Pascale Gendreau, directrice de l'Institut de formation de doulas de France, qui répond à nos questions sur la formation des doulas, et à Valérie Dupin, coprésidente de l'association Doulas de France, qui nous parle de la création et de l'objectif de cette association. Ensuite, vous allez entendre l'interview de deux médecins, le docteur Michel Audan, l'un des pionniers de la naissance physiologique en France, et le docteur Benoît de Sarcus, chef de la maternité de Nanterre. Son service a été le premier à ouvrir ses portes officiellement aux doulas suite aux demandes des futurs parents. Écoutons d'abord Pascale Gendreau, directrice de l'Institut de formation de Doulas de France.
Bonsoir Pascale Gendreau, vous êtes la directrice et formatrice à l'Institut de formation de Doulas de France. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vouloir transmettre ?
Justement parce que j'ai pu constater que la transmission que j'avais reçue avec beaucoup de bienveillance, sans désir de vouloir me convaincre, le partage de ces expériences de femmes que j'ai côtoyées dans les groupes de parole, ça a eu un impact très très positif sur mes expériences de devenir mère. Donc c'était devenu naturel pour moi de transmettre hein, ce que j'avais reçu.
Et maintenant, est-ce que vous êtes exclusivement formatrice ou vous continuez à accompagner les parents ?
J'accompagne, bien sûr. Je me sentirais pas légitime en tant que formatrice si je continuais pas à accompagner les parents. C'est important d'avoir une connaissance de la pratique, du terrain, d'être en lien avec des vraies familles pour pouvoir transmettre à des jeunes femmes qui veulent devenir doula à leur tour.
Et justement, cette formation dans votre institut s'articule comment ?
Alors c'est une formation que l'on dispense sur une durée de 27 jours qui sont répartis sur une année. On démarre en janvier et on termine en décembre. On cumule 216 heures de formation au total et on propose des modules qui s'articulent d'abord autour du positionnement et de l'éthique spécifique de la doula telle qu'elle a été mise en place au départ par l'association Doula de France, donc dans le total respect de la charte. Et puis, on a aussi 4 journées entières consacrées à la relation d'aide centrée sur la personne, avec la transmission d'outils comme l'écoute active, le positionnement spécifique basé sur la bienveillance, le non-jugement, pour pouvoir accompagner les parents et les familles dans un accueil inconditionnel et pas du tout dans l'idée de vouloir les coacher ou les amener sur des voies qu'ils n'auraient pas choisies eux-mêmes. Alors ça laisse la très très grande liberté aux parents, et surtout ça laisse aussi beaucoup de liberté aux doulas d'accompagner n'importe quel profil et n'importe quel projet de parentalité.
En parlant de profil, est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accéder à la formation ?
Alors, à l'Institut de formation de Doula de France, il y a un seul prérequis, c'est de pouvoir comprendre la langue française et pouvoir bien s'exprimer en français, parce que les cours sont dispensés en français. Voilà, c'est le seul prérequis. Il n'y a pas besoin d'être forcément maman soi-même pour accéder à la formation. Voilà, elle est ouverte à tous et toutes.
Qu'est-ce que votre institut délivre à la fin de la formation ?
Alors, on délivre une certification. Pour l'obtenir, il faut avoir participé à l'intégralité des journées, c'est-à-dire aux 27 jours. Il faut avoir aussi validé deux auto-évaluations qui sont proposées en cours de formation. Et il faut avoir présenté un travail de fin d'études. Chez nous, il y a ça de spécifique que ce travail de fin d'études, il est réalisé en groupe. La raison pour laquelle on demande la réalisation de ce travail de fin d'études en groupe, c'est pour vraiment valoriser la mise en commun des compétences spécifiques de chacune. Et puis, les doulas, elles travaillent en réseau. Donc, la collaboration avec d'autres doulas de leur secteur, elle est importante.
Et si on veut avoir plus d'informations, où est-ce qu'on s'adresse ?
Alors, vous avez le site formationdoula.fr, formation au singulier doula au pluriel.fr. Et là, vous avez tout le contenu de la formation, le détail du programme, les tarifs, le calendrier en cours, et puis les personnes à contacter s'il y a une question spécifique.
Merci beaucoup, Pascale Gendreau, pour toutes ces informations. Maintenant, nous allons entendre Valérie Dupin, coprésidente de l'association Doula de France.
Avant d'être une association, on a fonctionné comme un collectif. On s'est réunis une première fois en 2002-2001, je crois. On était une dizaine de femmes intéressées par cet accompagnement. Elle avait des doulas, mais il y avait d'autres personnes. Il y avait des sophrologues, il y avait des femmes qui faisaient du champ prénatal. C'était très varié. Et suite à ça, le site internet est venu appuyer le début d'un collectif, en fait. Et dans le fonctionnement du collectif, donc c'était ouvert à toutes les femmes qui étaient intéressées pour accompagner les parents, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des dérives possibles dans les pratiques. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à travailler autour d'une charte qui s'appuie sur les textes de loi, puisque c'est pas un métier officiellement reconnu. Donc il a bien fallu trouver un cadre en cherchant dans le code de santé publique et le code pénal. On a pu baliser ce qui était possible pour une doula, de faire ou de ne pas faire, sans pratiquer bien sûr la médecine, et en restant dans un cadre qui correspondrait du coup au service à la personne. Le besoin d'une formation a émergé, en particulier pour le positionnement de la doula, pour qu'elle soit vraiment dans un accompagnement des parents et pas être là pour dire aux parents ce qu'il fallait qu'ils fassent ou pas. C'est pas elle qui a la recette magique, c'est vraiment s'adapter entièrement à la demande des parents et de répondre à leurs demandes. Et pour ça, il était nécessaire, on a trouvé qu'il y ait une formation, avec bien sûr un apport de connaissances sur comment accompagner une femme pendant l'accouchement, comment l'accompagner pour son allaitement. Enfin, donc il y avait besoin d'avoir un socle de formation, de thématiques abordées. Pour rejoindre l'association Doula de France, il faut avoir suivi une formation qui valide ce cursus, les thématiques, le nombre d'heures, qui s'engage à respecter la charte, et voilà.
Une des actions que vous menez tout de même, ce sont les JDD. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, JDD sont les journées des doulas, qui en fait commémorent, on pourrait dire, la première rencontre des femmes, les premières femmes, donc la première fois qu'on s'est rencontrées, c'est au mois de mai. Et du coup, c'est devenu un peu la réunion des doulas, mais aussi un moment où on va inviter des intervenants très variés, de près ou de loin, autour de la parentalité, de la naissance, de la périnatalité. Donc tous les ans, au mois de mai, on propose deux journées avec des ateliers, des mini-conférences, avec des intervenants, alors des fois c'est français, là d'autres des fois étrangers, et très informatif aussi. C'est vraiment un peu la vitrine de l'association aussi.
Et pour cette année 2018, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût du programme ?
Cette année, la thématique, l'intitulé, c'est « Mon corps, mon accord ». Donc, c'est quand même assez parlant. Ça va principalement s'articuler autour des droits de la femme enceinte et qui accouche. On va aborder la thématique des violences obstétricales. C'est pas la première fois au GDD où c'est fait, ça fait longtemps qu'on en parle. Et des traumatismes liés après ça et répercussions que ça peut avoir sur la mère et son bébé et aussi sur la famille et sur le couple. Donc cette année, on a invité Marie-Hélène Lahaye, c'est la deuxième fois qu'elle vient. Il y aura aussi Mélanie Deschalotte. Il va y avoir aussi Claude-Suzanne Didier-Jean Jouveau pour parler, elle, des violences obstétricales, mais plus une fois que le bébé est là. Donc c'est aussi les gestes de soins qui sont aussi parfois violents pour le bébé. Et on a aussi le plaisir d'accueillir Alana Apfel, qui a écrit le livre qui a été publié en français, qui s'appelle « Sage-femme et doula », et qui retrace un peu l'historique et de la relation des sages-femmes, des doulas, et du fait que c'est possible de travailler ensemble. Il y a plusieurs pays où ça se fait. Au Royaume-Uni, les doulas sont parfaitement intégrées au paysage de la naissance. Il va y avoir des tentes rouges. Alors, c'est un espace de parole pour les femmes où chaque femme a un temps de parole. C'est un environnement assez intime. Et d'ailleurs, les premières tentes rouges en France ont été proposées aux journées des doulas. Et depuis, ben, ça fait plein de petits. Il y a plein de différentes formes de tentes rouges en France où c'est en gros un espace de parole pour les femmes.
Ces journées de doula, on se déroule quand cette année ?
Alors cette année, ce sont les 11 et 12 mai à Paris. Vous trouvez toutes les informations sur le site www.doula.info.
Merci beaucoup Valérie Dupin.
Naître et savoir sur Marmite FM.
Vous êtes toujours dans Naître et savoir et nous parlons des doulas. Vous venez d'entendre Pascal Gendreau et Valérie Dupin qui nous ont fait part de la philosophie des doulas au sein de leur organisation, ainsi que de l'importance du respect du cadre législatif en France dans l'exercice de leur métier. Cette philosophie a été retranscrite dans une charte que vous pouvez retrouver sur le site de Doula de France. Nous allons maintenant écouter le docteur Michel Audon que nous avons rencontré il y a quelques mois à Paris.
Quand on se demande ce que c'est qu'une doula, on peut reprendre la question à ses origines. Comment ce mot était introduit ? Dans les années, très exactement en 1980, la première fois que ce mot a été introduit dans la littérature médicale, c'était dans un journal prestigieux, New England Journal of Medicine, et c'était pour rapporter une étude qui a été faite au Guatemala, dans une maternité hospitalière où il y avait 60 naissances par jour, et pas des blouses blanches. Personne ne savait qui était médecin, qui était infirmier, on ne savait pas, il y avait des blouses blanches. Et cette étude a consisté à allouer au hasard à certaines femmes en travail une compagne. Cette compagne, c'était une maman qui habitait dans le coin. Une maman qui avait une expérience positive de la naissance de son bébé. C'était la seule condition. Et ils ont ainsi observé que dans le groupe qui, au hasard, s'était vu allouer une compagne, qui était une maman, qui savait ce que c'est que mettre au monde des bébés, mais les statistiques étaient meilleures. Ça, c'est la vraie doula. La vraie doula, c'est la figure maternelle. C'est celle qui permet à la femme qui accouche peut-être de sentir plus en sécurité, parce que c'est une femme qui est passée par là, qui sait ce que c'est, qui comprend ce qui se passe, c'est une mère, etc. C'est ça une vraie doula. Donc une doula, à l'origine, sur le plan du vocabulaire grec ancien, c'est une esclave. Bon, mais dans le vocabulaire moderne, et même les Grecs commencent à l'accepter, le vocabulaire moderne, on a dénaturé un peu le sens initial. Oui. Avoir une doula à l'origine, bah, c'était accoucher avec une amie qui avait des bébés, c'est tout. Mais on a compliqué les choses, on a parlé de formation, etc. de professionnalisation. Donc, on a dénaturé la doula d'origine.
D'accord. Comment vous expliquez que cette fonction soit, par exemple en France, mal connue ou voire mal acceptée par certains professionnels de santé?
Alors, le mot doula maintenant est très bien connu partout dans le monde. Il y a des doulas partout. C'est un phénomène mondial. Et c'est pourquoi c'est si intéressant. Quand un phénomène se répand partout dans le monde à une très grande vitesse, faut d'abord se dire qu'est-ce que ça veut dire. Il faut se poser des questions. La pire des choses, c'est d'avoir une opinion. Il faut se poser des questions. Or, je peux vous dire que c'est vraiment un phénomène mondial. Il y a des doulas en Chine, il y a des doulas au Japon, en Amérique latine, en Europe. C'est mondial. Ça veut dire que les femmes qui attendent un bébé, elles cherchent quelque chose. Il y a un besoin qu'elles n'arrivent pas à satisfaire actuellement. Voilà ce que ça veut dire. Après ça, on peut discuter, mais il faut partir de là. La pire des choses, c'est quand il y a un phénomène nouveau, mondial, de grande envergure, la pire des choses, c'est d'exprimer des opinions. Avant de poser des questions.
Écoutons Benoît de Sarcuse, chef de service de la maternité de Nanterre. Pouvez-vous nous présenter votre service ?
Le service est une maternité de niveau 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service de pédiatrie associé à la maternité. On prend en charge uniquement des grossesses à bas risque, comme on les appelle, nous, c'est-à-dire que des femmes qui ne risquent pas d'accoucher prématurément ou qui n'ont pas de soucis médicaux particuliers, c'est des grossesses standards, qui sont d'ailleurs les plus nombreuses, évidemment. Donc on estime qu'il y a au moins 80% des grossesses qui sont des grossesses à bas risque et qui peuvent accoucher dans une maternité de niveau 1.
Quels sont les différents services que vous proposez aux futurs parents afin de les aider à préparer l'arrivée de leur enfant ?
Il y a des services, je dirais, assez classiques de préparation à la naissance, avec des séances qui sont des séances collectives de préparation à la naissance. Il y en a 6 ou 7 à chaque qui sont proposés à chaque grossesse, qui sont pris en charge d'ailleurs par la sécurité sociale, c'est prévu dans le suivi de grossesse habituel, si je puis dire. Il y a une séance d'ailleurs pour les pères, donc les futurs papas, où on cause entre hommes. C'est moi qui fais les 2 heures de cette séance particulière, où on évoque la grossesse dans le point de vue des hommes. Donc ça, c'est des préparations un peu classiques. Il y a des choses un petit peu plus particulières à Nanterre, puisque on a l'habitude d'offrir des prises en charge peu médicalisées des grossesses, avec des tas d'options, des manières d'accoucher un petit peu plus inhabituelles. On peut accoucher accroupi à 4 pattes sur le côté, enfin dans des positions qui ne sont pas des positions standards traditionnelles en quelque sorte. La position standard, c'est allongé sur le dos avec les jambes écartées. C'est une position qui est parfois très demandée par les patientes, mais parfois ça leur convient pas. Et tout spécialement celles qui accouchent sans péridurale, il y en a un certain nombre qui aiment bien utiliser des positions différentes et donc on s'adapte à leur position. On a même une grande baignoire dans une pièce dite nature pour laquelle certaines patientes peuvent accoucher dans la baignoire, dans l'eau. Il y en a une de peu près tous les 10 jours qui accouche comme ça. On essaye de faire du cousu humain plutôt que du prêt-à-porter. Voilà, c'est ça la formule qu'on utilise. Parmi les choses qu'on fait et qui ne se font pas toujours dans les autres maternités, par exemple l'utilisation de doulas. Dans toutes les cultures du monde, je parle des cultures non occidentales, les femmes sont jamais seules pour accoucher. Elles sont toujours accompagnées par quelqu'un d'autre, généralement des dames, des femmes du clan familial, soit parfois des femmes spécialement dévolues à accompagner une femme pour accoucher. Généralement, c'est des femmes qui ont elles-mêmes eu des enfants, mais pas toujours. Cette idée que les femmes ont besoin d'avoir quelqu'un avec elles pour les aider à accoucher est une idée qui est aussi vieille que le monde, si je puis dire, aussi vieille que l'humanité. Et En Occident, eh bien, nos pratiques ne permettent pas toujours de faire ça. Je dirais que les sages-femmes, normalement, historiquement, les sages-femmes sont un peu les héritières de ces femmes qui, dans toutes les cultures, aident les autres femmes à accoucher. Et donc, les sages-femmes, avec le temps, en France en particulier, se sont professionnalisées, sont devenues des soignantes à complet, ont fait des études qui durent maintenant 4 ou 5 ans. Le problème, c'est que les maternités en France sont organisées autour de la sécurité à naissance, ce qui est une bonne chose, c'est pas un reproche, c'est simplement que, comme elles sont organisées autour de la sécurité à naissance, elles sont organisées autour de la possibilité d'avoir une péridurale, d'avoir des médecins anesthésistes sur place, et donc toute cette nécessité d'avoir une sécurité à la naissance fait que du coup les maternités doivent avoir une certaine taille. Il ne peut pas y avoir de petite maternité parce que c'est très compliqué d'avoir 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, un médecin anesthésiste par exemple disponible toute l'année dans des toutes petites structures. Du coup, ça oblige l'organisation générale des soins en France à regrouper les maternités pour faire des maternités de plus en plus grosses pour qu'il y ait suffisamment de médecins pour organiser cette sécurité à la naissance 365 jours sur 365. Et du coup, ça génère une activité très importante pour les sages-femmes de l'équipe. Et parfois, les sages-femmes ont à s'occuper de 1, 2, 3, 4 ou voire 5 patientes en même temps qui viennent pour accoucher. Du coup, une sage-femme qui a plusieurs patientes à s'occuper en même temps, elle peut pas se faire proche de la patiente, rester avec elle en continu, en permanence. D'où l'idée que, en Occident, alors c'est surtout dans les pays anglo-saxons et les pays d'Europe du Nord que ça s'est beaucoup développé, d'essayer d'organiser qu'il y ait d'autres femmes, qu'on appelle des doulas, donc d'autres femmes qui ne soient pas des soignantes, ou qui ont petite formation généralement, mais qui n'ont pas de diplôme particulier, en particulier de sage-femme, qui sont là juste pour accompagner la femme, en plus du mari, et qui peuvent venir avec la femme dans une maternité pour simplement l'accompagner, faire de l'accompagnement et rester auprès de cette femme pendant tout le travail. En général, les doulas ont des contacts avec les femmes avant l'accouchement et elles leur offrent cette prestation pour laquelle elles viennent, même à 3h du matin, elles s'engagent à venir auprès de cette femme. Alors, il y a une association qu'on appelle l'Association des doulas de France. Il y a des doulas qui ne font pas partie d'associations, mais globalement, la plupart de celles auxquelles on a eu affaire, nous, sont dans l'Association des doulas de France, qui est une association tout à fait officielle, qui a, je dirais, pignon sur rue, et qui a une charte d'engagement. Et généralement, les doulas sont là juste pour accompagner la femme. Et dans notre expérience à Nanterre, ça ne gêne pas les sages-femmes d'avoir la doula en plus. C'était un peu la peur qu'on avait au départ, quand on a commencé à avoir quelques patientes qui disaient « j'aimerais bien venir avec ma doula », c'était de se dire « oui, mais les sages-femmes disent « ben oui, mais alors, si nous, on ne fait pas l'accompagnement, nous, on n'a plus que le côté technique, comment on va se positionner vis-à-vis de la patiente ?» Donc ça, c'était une peur qu'il y avait, et en fait, en pratique, de la manière dont ça s'est passé, ben finalement, ça se passe très bien, et la plupart des sages-femmes disent « ben finalement, non, ça se passe très bien, quand j'entre pour examiner la patiente, la doula, généralement, propose de sortir, donc ça se passe très bien et il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, les sages-femmes disent, quand je m'occupe de plusieurs patientes en même temps, je suis tranquille, il y a la doula qui est avec la dame. Donc quelque part, ça me tranquillise. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est auprès de cette femme à l'accompagner et du coup, tout le monde est content. Donc, je ne peux pas dire qu'à Nanterre, il y a eu beaucoup de dames qui sont venues accoucher avec des doulas, hein, mais il y en a eu quelques-unes. Et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé.
Comment vous avez connu les doulas ?
Eh bien, c'est une dame qui nous a dit « j'aimerais bien finir avec ma doula ». Et alors, la première fois, on a dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une doula ?» Bon, alors, donc, on s'est un peu renseigné, on a appelé la doula, et donc, c'est la doula elle-même, quand on l'a contactée, qui nous a dit « bah, je fais partie de l'Association des doulas de France, si vous voulez, je vous envoie la charte ». On les a reçus, on a reçu la présidente de l'Association des doulas de France, et qui nous a présenté sa charte, on l'a reçue pendant une heure ou deux, on a discuté avec elle. Et puis du coup, on s'est dit bah tiens, on va voir, on va essayer. Et puis ça s'est bien passé les deux, trois premières fois. Et du coup, on a continué. Et maintenant, les dames peuvent venir avec une doula. Alors, Il n'y en a pas beaucoup parce que je pense que ce n'est pas très connu. En tout cas, en France, ce n'est pas très connu. En général, les patientes qu'on a eues qui nous ont parlé de doula les premières, c'est les patientes qui venaient de l'étranger ou qui étaient anglo-saxonnes ou d'origine américaine ou britannique. C'est les pays dans lesquels ça se fait un peu plus facilement qu'en France et c'est plus connu.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos homologues pour que, en fait, ils ouvrent un peu plus leurs portes à ces professionnels qui apportent une aide et un soutien nécessaire aux futures mamans et aux futurs papas?
Simplement de dire que nous, en tout cas, ça s'est très bien passé. Les fois, alors on n'en a pas eu beaucoup, faut pas dire non plus qu'on en a tous les jours, mais disons, à chaque fois que ça s'est passé, ça n'a pas posé de problème, ni avec les professionnels qui étaient là au moment de l'accouchement de la dame qui venait avec sa doula. En tout cas, avec celle qu'on a eue, les contacts étaient très faciles et la doula qu'on a eue a parfaitement bien trouvé sa place et a su rester très discrète. C'est-à-dire, à chaque fois que la sage-femme rentre dans la pièce où la femme est en train d'avoir son travail ou dans la chambre, etc., la doula propose de sortir à chaque fois. La doula ne prend aucune décision de nature médicale, n'est pas là pour conseiller la patiente de faire ci ou de faire ça. Elle est là juste pour faire l'accompagnement, et c'est bien marqué dans leur charte, en tout cas pour l'Association des doulas de France, c'est bien marqué dans leur charte que la doula ne s'occupe absolument pas de problèmes techniques, n'intervient pas, et s'il y a une décision de césarienne, etc., la doula dit bon bah très bien, moi je sors et j'attends juste que ça soit fini, voilà, et il n'y a pas de problème.
Naître et savoir sur Marmite FM.
En écoutant les interviews des docteurs Audon et de Sarcus, on se rend compte que les femmes expérimentées qui accompagnent d'autres femmes pendant la période de la maternité ont toujours existé, et que les doulas sont en fait une représentation de ces figures féminines du passé. De plus, on apprend que de nos jours, ce sont les parents qui sont à l'origine de la réapparition des doulas dans le paysage de la périnatalité et de la naissance, car leur accompagnement leur permet d'avoir une présence en continu pendant l'accouchement, ce qui rassure la future mère et lui permet d'avoir confiance dans sa capacité à mettre au monde et à accueillir son enfant. Enfin, des études randomisées qui ont été menées aux États-Unis et en Angleterre ont montré les bénéfices de la présence d'une doula auprès de la future mère. On peut citer celle apparue dans The Doula Book en 2002 qui dit que les femmes accompagnées par une doula ont un meilleur ressenti de leur accouchement, qu'il y a une diminution de 60% de demandes de péridurale et une diminution de 50% du taux de césarienne. D'autre part, on y apprend que 6 semaines après la naissance, les mères accompagnées par une doula présentaient moins de signes d'anxiété et de dépression, se sentaient plus en confiance avec leur bébé, étaient plus satisfaites dans leur relation de couple et avaient un taux d'allaitement plus élevé, de l'ordre de 52%. Ces chiffres font réfléchir. Pour conclure, on peut dire que le métier de doula, bien connu dans les pays anglo-saxons, est arrivé il y a une quinzaine d'années en France, mais reste peu connu du grand public. Cependant, de plus en plus de parents font appel à elle pour être plus acteurs de leur naissance et de leur parentalité. On note également que les relations ne sont pas toujours simples avec les équipes médicales, entre autres avec certaines sages-femmes qui peuvent percevoir les doulas comme des concurrentes potentielles. Mais les choses changent et grâce au témoignage du docteur de Sarcus, on constate une ouverture. Car sa maternité accueille les parents et leurs doulas depuis quelques années et la collaboration se passe bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé sur le métier de doula. Merci à l'équipe technique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de Naître et Savoir. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour un autre sujet passionnant sur le thème de la grossesse, de l'accouchement et de la naissance. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt. Naître et Savoir sur Marmite FM.
Ce que vous voudriez savoir avant d'accoucher et de devenir parent.